37. Trévis n'était pas en position pour réfléchir logiquement aux détails de la situation. Il lui venait plutôt, par éclair, des pensées en séquences bizarrement déformées, dont, s'il en avait fait le tri, l'enchaînement aurait donné ceci. Joie avait initialement soutenu qu'en terraformant une planète, les hommes instauraient un déséquilibre écologique, qu'ils étaient par la suite contraints de maintenir par d'incessants efforts. Par exemple, aucun colon n'avait amené avec lui de grands prédateurs. Les petits, on ne pouvait les éviter. Les insectes, les parasites, voire les faucons, les musaraignes, et ainsi de suite. Ces fabuleux animaux des légendes et de vagues récits littéraires, tigres, ours grizzlies, orques, crocodiles, qui iraient les transporter de planète en planète, même s'il y avait une raison pour le faire? Et quelle raison y aurait-il? Cela signifiait que l'homme était le seul grand prédateur, et qui lui revenait d'élaguer parmi ses plantes et ses animaux qui, sinon, laissés à eux-mêmes, s'étoufferaient sous leur propre pléthore. Et si pour une raison ou une autre, l'homme disparaissait, d'autres prédateurs devaient alors prendre sa place. Mais lesquels? Les plus grands prédateurs tolérés par l'être humain étaient les chiens et les chats, domestiqués et vivants de l'aumône. Et s'il ne restait aucun homme pour les nourrir? Alors, il leur faudrait trouver eux-mêmes leur nourriture, pour leur survie et en toute vérité pour la survie de ceux qui constituaient leur proie et dont le nombre devait être limité car la surpopulation de ceux-ci engendrerait des dommages 100 fois supérieurs à la prédation. Et donc, les chiens se multipliaient dans toute la diversité de leur race, les plus grandes attaquant les herbivores laissés à l'abandon, les plus petites s'attaquant aux oiseaux et aux rongeurs. Les chats feraient la nuit ce que faisaient les chiens le jour, les premiers solitaires, les seconds en meute. Et peut-être qu'au bout du compte, l'évolution produisait d'autres variétés pour remplir de nouvelles niches écologiques. Qui sait si certains chiens ne développeraient pas des caractéristiques amphibies pour leur permettre de se nourrir de poissons, tandis que certains chats pourraient acquérir des capacités de vol plané afin de chasser les oiseaux les moins vifs, aussi bien dans l'air que sur le sol. Par éclair, tout cela apparut à Trévis, tandis qu'il réfléchissait toujours à des solutions plus concrètes pour s'en sortir. Le nombre des chiens continuait à s'accroître. Il en comptait à présent 23, entourant son arbre, et d'autres encore approchaient. Quelle taille avait la meute? Quelle importance, elle était déjà bien assez grande. Il retira le désintégrateur de son étui, mais le ferme contact de la crosse dans sa main ne lui procura pas l'impression de sécurité qu'il aurait espérée. Depuis quand avait-il inséré un bloc énergétique, et combien de charges pouvait-il tirer? Sûrement pas 23. Et Pélorate et Joie. S'ils faisaient leur apparition, les chiens se retourneraient-ils sur eux? Était-il en sécurité même s'il n'apparaissait pas? Si les bêtes sentaient la présence de deux humains à l'intérieur des ruines, qu'est-ce qui pouvait les retenir de les y attaquer? Sans doute ne subsistait-il pas de porte ou de barrière pour les contenir? Joie serait-elle en mesure de les retenir, voire de les écarter? Serait-elle capable de concentrer ses pouvoirs à travers l'hyperespace jusqu'au niveau d'intensité désiré? Et combien de temps pourrait-elle résister? Alors, devait-il appeler à l'aide? S'il criait, allait-il venir à toutes jambes et les chiens fuiraient-ils sous le seul regard de Joie? Lui suffirait-il d'un regard ou d'une simple action mentale indétectable aux témoins dépourvus de son don? Ou bien, s'ils apparaissaient, seraient-ils mis en pièces sous les yeux mêmes de Trévis, spectateur forcé impuissant depuis la relative sécurité de son perchoir dans l'arbre? Non. Il allait lui falloir utiliser son désintégrateur. S'il pouvait tuer un chien et effrayer les autres rien qu'un instant, il pourrait dégringoler de l'arbre, appeler à grands cris Pélorate et Joie, tuer un deuxième animal s'il faisait mine de revenir avant d'aller tous trois se réfugier en hâte dans le vaisseau. Il ajusta l'intensité du faisceau de micro-ondes jusqu'à l'échelon 3/4. Cela suffirait amplement à tuer un chien avec une détonation fracassante. La détonation servirait à terroriser les autres, et il économiserait de l'énergie. Il visa soigneusement un animal au milieu de la meute, une bête qui semblait, du moins dans son imagination, exuder une plus grande malveillance que les autres, simplement peut-être parce qu'il était plus calme et semblait par conséquent guetter sa proie avec plus de sang-froid. Le chien fixait à présent l'arme comme s'il éprouvait le plus grand mépris pour les éventuels agissements de Trévise. Ce dernier se rendit compte qu'il n'avait jamais tiré au désintégrateur sur un homme, ni vu quelqu'un le faire. À l'entraînement, ils avaient tiré sur des mannequins de cuir et de plastique remplis d'eau. L'eau portait presque instantanément à ébullition des lambeaux propulsés partout par l'explosion. Mais qui, en l'absence de guerre, irait tirer sur un être humain? Et quel humain pouvait tolérer une telle arme et justifier son emploi? Il n'y avait qu'ici, sur un monde rendu pathologique par la disparition de l'homme. Avec cette bizarre capacité du cerveau à noter un détail parfaitement incongru, Trévise releva qu'un nuage avait dissimulé le soleil, puis il tira. Un étrange frémissement de l'atmosphère joignit en ligne droite le canon du désintégrateur au chien. Un vague étincellement qui serait passé inaperçu si le soleil avait encore brillé sans obstacle. Le chien devait avoir senti la première bouffée de chaleur et avait esquissé un infime mouvement, comme prêt à bondir. Et puis, il explosa en même temps qu'une partie de son sang et de ses cellules se vaporisaient. L'explosion provoqua un bruit décevant, car les téguments de l'animal n'étaient pas aussi rigides que ceux des mannequins sur lesquels il s'était entraîné. Chair, peau, sang et os s'éparpillèrent néanmoins, et Trévise se sentit l'estomac retourné. Les chiens battirent en retraite, certains ayant subi l'inconfortable bombardement de fragments encore chauds. Il n'y eut cependant qu'une brève hésitation. Ils se ruèrent soudain les uns sur les autres pour dévorer la manne qui leur était fournie. Trévise sentit son écœurement s'accroître. Il ne les effrayait pas. Il les nourrissait. À ce compte, il ne risquait pas de partir. En fait, l'odeur de sang frais et de chair chaude allait en attirer de nouveaux et peut-être, de surcroît, d'autres petits prédateurs. Une voix s'écria. Trévise, que... Trévise se retourna. Joie et Pellerat venaient d'émerger des ruines. Joie s'était immobilisée, les bras tendus pour retenir Pellerat. Elle fixait les chiens. La situation était évidente et claire. Elle n'avait pas besoin de poser de questions. Trévise hurla. « J'ai tenté de les faire fuir sans vous mettre dans le coup, vous ou Janoff. Pouvez-vous les contenir ?»« Tout juste. » avoua Joie sans crier, de sorte que Trévise eut du mal à l'entendre même si les grondements des chiens s'étaient apaisés comme si l'on avait jeté sur eux une couverture d'isolation phonique. « Ils sont trop nombreux, » continua la jeune fille, « et je ne suis pas familiarisée avec leur structure d'activité neuronique. Nous n'avons pas de telles créatures sauvages sur Gaïa, ni sur Terminus, ni sur aucun monde civilisé, » lança Trévise. « Je vais en descendre autant que je peux, et vous essaierez de contenir les autres. Moins il y en aura, moins vous aurez de problèmes. Non, Trévise !» Tirer ne fera qu'en attirer d'autres. Restez derrière moi, Pell. Vous n'avez aucun moyen de me protéger. Trévise, votre seconde arme, le fouet neuronique, oui, celle qui provoque des douleurs, à basse puissance. À basse puissance. Auriez-vous peur de leur faire mal? Lança Trévise, irrité. Est-ce bien le moment de songer au caractère sacré de la vie? Je songe à celle de Pell et à la mienne. « Faites comme je vous dis, basse puissance, et tirez sur l'un des chiens. Je ne pourrai pas les contenir beaucoup plus longtemps. » Les chiens s'étaient écartés de l'arbre pour encercler Pellerat et Joie, acculés, le dos contre un mur en ruine. Les plus proches faisaient des tentatives hésitantes pour s'approcher encore, gémissant un peu, comme s'ils essayaient de discerner ce qui les tenait à distance, quand ils étaient incapables de déceler quoi que ce fût. Certains essayaient vainement d'escalader le mur pour les prendre à revers. Trévise avait la main qui tremblait lorsqu'il ajusta la puissance du fouet neuronique. Celui-ci dépensait considérablement moins d'énergie que le désintégrateur, et une simple cartouche était capable d'alimenter des centaines de coups de fouet, mais maintenant qu'il y songeait, il était tout aussi incapable de se rappeler quand il avait rechargé l'arme pour la dernière fois. La précision de visée n'était pas aussi cruciale, et puisque la conservation d'énergie n'était pas si critique, il pouvait se permettre de balayer la meute. C'était la méthode traditionnelle pour maîtriser les foules qui montraient des signes d'activité menaçante. Il suivit néanmoins la suggestion de Joie. Il visa un chien précis et tira. L'animal bascula et se mit à gigoter en poussant des couinements aigus. Les autres s'écartèrent à reculons de la bête atteinte, les oreilles rabattues en arrière contre le crâne. Puis, couinant à leur tour, ils firent demi-tour et partirent, d'abord à pas lents, puis plus vite et enfin au pas de course. Le chien qui avait été touché se releva tant bien que mal et s'éloigna en gémissant, bon dernier. Le bruit décrut dans le lointain et Joie lança « Nous ferions mieux de regagner le vaisseau, ils vont revenir, eux ou d'autres ». Trévise estima que jamais encore il n'avait manœuvré aussi vite le mécanisme d'entrée de leur appareil, et il était bien possible qu'il n'eût jamais l'occasion de rééditer cet exploit.